tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. On va parler de langue aujourd'hui dans Histoire de savoir à propos d'un événement qui va avoir lieu. C'est la semaine bruxelloise du multilinguisme. C'est la première édition de cet événement. Et pour en parler, pour parler des langues romanes, on a en studio Sabine Agola. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes coordinatrice académique d'ULB Langue, vous êtes professeur également d'italien dans la faculté de lettres, traduction et communication, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, merci.
Et à côté de vous, Béatrice Calvo-Martine, bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous êtes enseignante d'espagnol et en didactique de l'espagnol, c'est bien ça?
Oui,
c'est aussi ça. En LTC, donc en lettres, traduction et communication. Et donc vous êtes les personnes tout à fait adaptées, je vais dire, pour nous parler des langues romanes. Donc d'abord peut-être un petit mot sur l'événement qui va avoir lieu la semaine prochaine. Je dis la semaine prochaine parce qu'on enregistre donc la semaine avant.
D'accord, oui, donc c'est l'ULB a décidé de participer donc à cette grande organisation qui vient donc du comité bruxellois pour le multilinguisme. Et nous avons organisé beaucoup d'événements ici à l'intérieur de l'université. Et donc, on en a un peu pour tous les goûts. On en a pour les enfants, pour les ados. On a des ateliers sur les langues, en général, pour les enfants. On a un après-midi inédit qui concerne la désinformation et donc aussi dans le domaine des langues. Et puis, nous avons aussi des ateliers sur le polonais, les langues nordiques, une grande conférence sur l'émigration et donc sur les langues et l'émigration ici en Belgique. Et puis, nous avons, donc moi-même, je vais présenter des plateformes « Made in ULB », voilà, dont je suis donc l'initiatrice, mais aussi avec d'autres collègues de notre groupe.
On pourra peut-être en parler même un peu plus tard, si vous êtes d'accord, donc de ces deux plateformes pour nous dire ce qu'elles sont et à quoi elles servent.
Oui, bien sûr, volontiers, c'est un plaisir.
Voilà, et donc vous allez animer ensemble, je ne sais pas si on dit animer, si vous êtes d'accord avec ce terme,
oui.
Présenter, animer,
oui.
Mais avec d'autres collègues aussi, une après-midi, les faux amis. Connaître les langues romanes pour éviter les pièges. Alors, évidemment, quand on parle de langue romane, on a l'impression qu'on sait ce que c'est, mais j'aimerais bien vous entendre parce que je suis sûre qu'en fait, on ne sait pas tout à fait ce que c'est entièrement.
Bah, les langues romanes, tout d'abord, ce sont les langues qui viennent du latin. On a une origine commune, et c'est le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, le roumain, etc. Et parfois, on est surpris de savoir que même le roumain est une langue romane, parce qu'on le place plutôt du côté des langues slaves, mais pas du tout. C'est une langue qui vient aussi du latin, même si chaque langue a des influences de sa zone géographique, parce que c'est un continuum géographique et chacune a ses particularités.
Et donc voilà, donc oui, c'est ce qu'on disait hors antenne, et c'est pour ça que je vous ai contacté aussi d'ailleurs, que les langues romanes, donc elles ont toutes la même source en fait.
Oui, elles ont toutes la même source, le latin, mais après chaque langue a suivi un peu son chemin par rapport à sa situation aussi géographique. Et donc, chaque langue romane a dans son lexique, par exemple, des mots qui viennent des langues des barbares, des populations qui ont envahi le territoire où se sont développées les langues romanes et des langues qui étaient déjà sur le territoire quand le latin est arrivé. Donc, chaque langue romane a ses spécificités. Elles se ressemblent toutes dans la grammaire, dans le lexique, dans les articles, par exemple, dans le système d'articles, mais il y a eu des différences donc, par rapport à leur histoire. Donc, quand on parle d'une langue, on parle d'une société, de l'histoire. Voilà, ce n'est pas uniquement de mots qu'on parle.
Ben finalement, on peut dire quelque part alors que les langues romanes ne sont pas si vieilles que ça. C'est pas si vieux que ça, finalement, quand on voit. Si on imagine des langues, je ne sais pas moi, l'arabe ou le chinois, on a l'impression que là, il y a eu moins de. Enfin, que c'est, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. Est-ce que c'est des langues assez jeunes ou ça
Ben, langue assez jeune, ça dépend.
C'est pas ce qu'on dit pas
ça
jeune.
Dépend. Donc, non, mais ça dépend un peu de quand, je veux dire, toutes les langues romanes ont des documents qui, disons, on parle surtout en ce qui concerne l'écrit, qui marque le début de cette langue, comme pour le français, les sermons de Strasbourg. Voilà, donc pour toutes les langues, il y a un moment où on dit qu'elles ont commencé, surtout à l'écrit. Et puis, il y a eu toute une évolution qui les a fait, disons, arriver jusqu'à maintenant. Donc,
Oui.
Et comme ma collègue a dit, les latins s'est mélangé avec les langues qui étaient déjà sur chaque territoire. Ça veut dire qu'il y avait des langues avant, pour l'Espagne, les libères, les celtes ou autres, les grecs avant, etc. Ben, il s'est mélangé avec ce qu'il y a là avant. Et ils font toute une évolution aussi par après.
Oui,
quand elles voyagent dans les territoires, c'est toujours lié, l'espace et le temps. Et voilà, la langue, c'est un produit toujours en évolution.
Et qui continue à évoluer d'ailleurs aujourd'hui.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, par exemple, en Espagne, c'est la langue basque qui ressemble pas du tout à l'espagnol, par exemple.
Oui, tout à fait. On a 4 langues officielles. 3, c'est des langues romanes, les catalans, les galiciens, les castillans ou l'espagnol. Et puis, on a les basques qui... On ne sait pas, les linguistes ne savent pas très
toujours
bien,
pas.
Non, toujours
c'est
pas très bien d'où ça vient, parce que ça ne ressemble pas à une autre langue. Il y a des gens qui disent que peut-être il y a des liens avec les langues celtes, les gaéliques, mais ce n'est pas sûr, on ne sait pas encore.
C'est génial parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir.
Parce qu'en Italie aussi, on a le cas de l'étrusque, par exemple, donc on ne connaît pas l'origine, même si on sait que des mots étrusques sont rentrés dans le latin et sont restés, disons, dans la langue italienne. Donc, et en Italie, par exemple, avec la présence de ces langues de substrats qui se sont mélangées au latin, nous avons tous les dialectes qui sont maintenant, qui caractérisent donc la situation sociolinguistique de l'Italie.
Et qu'est-ce qui vous a fait, ça c'est plus une question personnelle, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre, qu'est-ce qui vous a fait aimer les langues et aller chercher finalement en faire votre carrière
Là c'est une bonne question, je ne sais pas, c'est une passion qui est venue petit à petit en fait. Mais je dois dire que quand j'ai commencé à étudier donc le français à l'université, c'est une langue qui m'a passionnée énormément. Et donc, j'ai même j'ai changé. Avant, j'avais l'anglais comme langue principale et j'ai repris le français. Et quand je suis arrivée ici en Belgique, l'amour pour le français n'a fait que grandir. Et voilà. Et j'aime beaucoup les langues romanes. Je ne sais pas, je pense aussi que c'est une façon de penser. Parler une langue romane, c'est une façon de penser aussi. Et donc, j'ai voulu approfondir et j'ai étudié l'espagnol, j'ai étudié le portugais.
Ah ouais.
Oui, et ça me plaît beaucoup et j'aime beaucoup pouvoir avoir cette palette, disons, de langues et de connaître toutes ces langues.
Et la culture qui va avec.
Parce et que, la, culture la culture qui va avec, oui.
Parce que ça sera peut-être une question, mais je vais d'abord me tourner vers vous, Béatrice. Et donc, justement, vous, cet amour, ce goût des langues.
Oui, c'est la même chose pour moi. C'est la langue va avec toute une façon de penser, une culture, une histoire. Donc à chaque fois, connaître une langue, c'est ouvrir l'esprit à toute une façon d'être dans le monde différente. Et donc pour les langues romanes, moi j'adore aussi, je continue toujours à apprendre des langues, maintenant aussi l'italien. Mais pour les langues germaniques et même slaves, j'ai essayé avec le tchèque. Et c'est toujours passionnant parce que c'est toute une façon de penser complètement différente. Et on le voit par le vocabulaire, par la structure, par la culture qui va avec. C'est vraiment une porte qu'ouvre avec chaque langue. C'est tout un monde qui s'ouvre à nous. Et puis entre les langues voisines, on tisse les liens. Ce qui est passionnant parce que on est comme des détectives qui découvrent des pistes pour ça. Ah ok, c'est pour ça. Il y a des raisons, il y a toujours une logique derrière.
Ben justement, s'il y a des liens qui se tissent, vous voulez rajouter quelque chose, Sabina?
Oui, non, pour dire que j'avais essayé aussi de m'approcher du néerlandais. Et donc, voilà, j'ai un ça... peu... Oui, je l'ai étudié seulement pendant un an, mais voilà, c'est utile pour ne pas mourir de faim quand je passe la frontière.
En effet. Alors justement, quand vous disiez que entre les langues, vous tissez des liens, mais parfois il y a des liens qui ne sont pas tissés parce qu'il y a ce qu'on appelle les faux amis entre les langues. C'est quoi ces faux amis? C'est qu'entre les langues romanes ou ça existe dans toutes les langues?
Ça existe dans toutes les langues. Je pense qu'on apprend ça même quand on apprend l'anglais ou n'importe quelle langue. Il y a des mots qui ressemblent beaucoup, mais qui veulent dire quelque chose de complètement différent. Alors c'est comme des pièges dans la langue quand on apprend. Et voilà, les profs souvent soulignent beaucoup ces mots qui sont des faux amis au lieu de souligner les ressemblances. Et donc, nous travaillons beaucoup avec l'intercompréhension.
C'est-à-dire
l'intercompréhension entre les langues romanes, c'est-à-dire que chacun peut parler sa langue et on peut trouver des stratégies pour comprendre, même si on n'a jamais étudié une autre langue. Donc, trouver les ressemblances et travailler à partir de ces ressemblances pour... voilà, arriver à comprendre un minimum, et c'est toute une approche de communication et d'apprentissage des langues, et qui est très respectueuse avec les autres langues, parce que chacun peut se manifester dans sa langue materne, sans devoir passer par une langue intermédiaire, et donc c'est très enrichissant, mais il faut le travailler, il faut travailler des stratégies,
oui,
ça vient pas immédiatement, oui. Parce qu'on a tendance à se bloquer quand on parle dans une langue qu'on n'a pas étudiée, on bloque. Et donc nous faisons beaucoup avec nos étudiants des schémas, des stratégies pour pouvoir d'abord ne pas avoir peur, et puis puiser dans ce répertoire linguistique qu'on a tous, peut-être qu'on connaît quelques mots ou une expression, profiter de tout ça pour comprendre les gens qui parlent dans une langue autre.
Oui ?
Non, mais pour rebondir, que nous avons essayé d'intégrer aussi cette intercompréhension dans un cours que nous avons en commun, un cours de linguistique comparée des langues romanes. Et dans la partie pratique, nous essayons d'approcher nos étudiants à l'intercompréhension. Et ils restent toujours ébahis du fait de pouvoir comprendre les étudiants qui apprennent l'espagnol, de comprendre l'italien et puis de comprendre le portugais et un tout petit peu de roumain, même si c'est une langue assez différente par rapport aux langues romanes. Et cela nous a amené aussi à faire un manuel. Donc nous avons fait un manuel en intercompréhension que nous espérons, voilà, qui sera peut-être publié. On est en train de finaliser, voilà, pour la publication.
Mais donc c'est comment je vais dire ça? Je vais dire ça comme je le pense. En fait, c'est une façon d'apprendre les langues de façon non violente, on va dire.
Oui, toutes les langues sont sur le même pied d'égalité. Je pense que c'est une belle expression que vous utilisez. Et que chacun peut se permettre de parler sa propre langue et se faire comprendre.
Tout en apprenant celle des autres.
En apprenant celle des autres, oui.
C'est super intéressant, mais ça marche essentiellement dans des langues qui se ressemblent, du coup.
Pas forcément, pas seulement. C'est plus facile quand c'est les langues qui se ressemblent d'une même famille. Ça va plus rapidement, plus facilement. Mais on a aussi un projet avec l'Université Masaryk à Brno, en République tchèque. sur la compétence plurilingue et pluriculturelle. Et là, on fait de l'intercompréhension avec toutes les langues. On a des langues germaniques, des langues slaves et des langues des familles différentes, disons. Et ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est surprenant. On arrive à comprendre des poèmes en allemand, en tchèque, en portugais, wow. En italien, en espagnol. Il faut juste développer des stratégies pour pouvoir...
Oui, c'est ça. Il y a des stratégies. C'est des stratégies communes ou des stratégies individuelles?
Les deux. Mais c'est surtout... puiser dans les répertoires de chacun, valoriser les répertoires de chacun.
Mais c'est vous qui donnez les stratégies, c'est vous qui...
Voilà. Oui, okay. Les mots transparents, par exemple.
Oui, bien sûr. C'est le fait, on revient un peu à ce qu'on a dit, que les langues se sont influencées les unes les autres, pas seulement les langues romanes, mais aussi les autres langues. Et donc, on peut retrouver des mots romanes dans des langues slaves. Et donc, en partant de cela, on peut développer des stratégies qui te font comprendre, même si, on ne comprend pas trop, on ne connaît pas la langue d'arrivée. Donc, c'est, par exemple, pour l'atelier qu'on prépare pour les enfants, l'atelier s'intitule « Même les animaux parlent les langues étrangères ». Et on a travaillé sur les onomatopées des bruits des animaux.
Ils disent pas la même chose dans les mêmes langues.
Non, du tout. Par exemple, on se rend compte que un chat francophone et néerlandophone peuvent bien se parler, mais le chat italien, c'est un peu différent le bruit. Et donc, on fait remarquer aux enfants les différenciations dans les différences de prononciation, de graphie, par rapport aux différentes langues. Et là, on a le néerlandais, mais aussi le russe, le français, l'italien, le roumain. Donc, on a des langues romanes, slaves et germaniques. Mm-hmm. Et à un certain moment, on a eu aussi le Wolof. C'était pertinent aussi, le Wolof.
Thank you.
Mais c'est super intéressant parce que quand on voit l'apprentissage des langues à l'école, je parle à l'école, hein, pas à l'université, quand on choisit, mais à l'école, parfois c'est un peu, c'est des listes de vocabulaire à apprendre. Enfin, je ne sais pas si on apprend encore comme ça. J'ai un mauvais souvenir des listes de vocabulaire, des verbes irréguliers qu'il fallait également apprendre par cœur. Enfin, il y avait un truc comme ça un peu de...
Non, depuis un moment, on sait qu'on apprend beaucoup mieux avec une méthode communicative. Et donc, on met les étudiants dans le bain. Et depuis les cadres communs européens, on pratique beaucoup les projets, on travaille par projet, on travaille les langues de façon orientée à l'action, de façon actionnelle. Ça veut dire qu'on va utiliser les langues pour quelque chose. C'est pas apprendre des listes de mots ou de la grammaire, juste comme ça, mais vraiment pour faire des choses, pour lire, pour comprendre, pour parler, toutes les compétences pratiques. On les travaille spécifiquement. Donc, heureusement, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, plus dynamique et plus attrayant pour les étudiants. J'espère.
Ça a l'air, en tout cas. Vu de l'extérieur, ça a l'air. Et donc, vous disiez aussi qu'il y avait des mots transparents que vous utilisiez dans cette intercompréhension.
Oui, on fait la différence entre mots transparents et mots opaques. Les mots transparents, ce sont donc les mots qui se ressemblent et qui gardent le même sens dans les différentes langues romanes. Et les mots opaques, ce sont les mots que les différentes langues ont puisés dans d'autres sources, disons, et que donc ne se ressemblent pas, et que donc peuvent brouiller un peu la compréhension de la phrase, du texte. En général.
Vous avez des exemples concrets comme ça, vite alors je ne sais pas si vous savez nous trouver ça.
Oui. Compréhension, comprensión, comprensione, qui sont très très
ça
semblables. Oui, il y a beaucoup de mots dans les langues romanes qui ont la même racine, qui varient un tout petit peu par rapport aux mots latins, et alors là, tout le monde comprend.
Oui, voilà, le mot concordia, par exemple, concordia. En espagnol, donc voilà, trattato, traité, trattato, voilà, et là on se rend compte que, voilà, il y a eu des petits changements, le T italien qui est devenu un D en espagnol, en français, traité, donc il y a eu la perte d'une syllabe. voilà.
Et
mais
par exemple,
les mots se ressemblent, on voit que c'est le même mot.
Et par exemple, quand j'ai eu mes cours d'italien à l'université, il y avait le « où ». Donc nous, on dit « où est ?» Enfin, « où ça se passe
?» Oui.
Et alors, en italien, c'est « dove ?»
Oui.
Et en espagnol, c'est « donde ?» Ça, alors, « dove » et « donde », à la limite, on peut trouver. Mais le « où », alors là, il a disparu. Enfin, on ne comprend pas, là, quoi.
Oui, mais là, c'est un exemple de mot opaque. Voilà.
Oui, hein. Voilà, oui, tout à fait.
Super. Ah bah,
ça dépend de l'évolution des mots aussi.
Et donc, dans les faux amis, parce qu'on va quand même parler des faux amis, là, vous avez des exemples en italien, espagnol, portugais, français.
Oui, ben, en italien, par exemple, dans notre, il y a le mot caméra. Vu qu'on est ici dans une radio, dans le mot caméra, mais en italien, camera, c'est la chambre.
Et en espagnol?
En espagnol, par exemple, mes étudiants font toujours cette erreur.
C'est... Non, et caméra, c'est aussi lié non. ou
la caméra, chambre? Caméra, c'est comme en français. On a caméra,
c'est la caméra
des vidéos, oui.
Je fais encore le geste, mais ça
ou pour, même pour prendre des photos, l'appareil photo, nous, c'est una caméra.
Et donc là, c'est la chambre. Et la chambre, comment ça se dit en espagnol?
Una habitación. Voilà. Et c'est un faux, ça a mis avec habitation en français parce que...
Oui, et même en italien, abitazione, c'est le où on vit, ce n'est pas la caméra, la chambre.
Ouais. Et vous avez une explication de ce glissement ou pas du tout c'est des glissements qui se sont faits au fur et à mesure et on ne sait pas comment.
Oui, oui, parfois il y a la même racine latine. Mais chaque langue en a pris une partie peut-être de la signification et il a et donc ça change par rapport à la langue. Je vous fais un petit exemple que je trouve intéressant, parce que nous, on parle ici de faux amis, on parle, mais il y a des mots qui sont restés dans une langue, mais qui sont devenus obsolètes dans une autre, mais qui ont la même racine. Et je vous fais, par exemple, le mot « souvent » en français, c'est en italien « sovente ». Ça vient de, c'est un mot littéraire qui vient du français ancien, et du latin. Mais du latin, il avait aussi la signification de spesso, épais. Donc, le mot épais et la forme, ancienne, française, sont issus du latin classique. D'accord, mais qui signifie donc dense. Mais l'italien n'a pas repris cette signification et a gardé uniquement le spesso, épais, mais souvent.
Ok.
D'accord, peut-être je suis un peu embrouillée, mais voilà, c'est pour dire que en latin, un mot pouvait avoir plusieurs significations.
Ouais, oui.
Et puis, chaque langue a pris une partie de la signification qui s'est développée différemment.
C'est génial.
Voilà.
Et vous aviez un exemple pour l'espagnol dans les faux amis aussi?
Oui, il y a un faux ami qui apparaît souvent dans les discours des étudiants. C'est exprimer. Ils disent en espagnol, ah voilà, exprimir. C'est un verbe qui ressemble beaucoup, mais ça n'a rien à voir. Exprimer, c'est presser comme une orange pour faire un jus d'orange. Et donc, quand les étudiants disent « je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas me presser », c'est un peu bizarre en espagnol.
On a envie de sourire quand même, alors.
Oui, c'est ça. Et on dirait « expresser ».
Ok. Mm-hmm. Alors, donc ça, c'est faux amis. Comment est-ce que vous allez faire pour expliquer ça au réto? C'est au réto que ça s'adresse?
Oui.
On a plusieurs activités. Oui. C'est un peu pensé comme des jeux pour les adolescents. Donc, on va montrer, on a préparé un article de fake news parce que la thématique, c'est la désinformation. Et donc, on va avoir un article multilingue dans toutes les langues romanes. Ils doivent essayer de comprendre. On va développer des stratégies pour qu'ils puissent comprendre par le contexte, par les mots transparents, justement. Mais il y a des pièges, c'est les faux amis qu'ils vont devoir découvrir pour ne pas tomber dans ces pièges. Et pour ça, il y aura donc des petits jeux et des activités de compréhension, d'intercompréhension.
Vous croyez que ces faux amis, donc finalement c'est des malentendus, quelque part, peuvent être à l'origine de fake news telles qu'on les entend aujourd'hui qu'en fait, c'est entre guillemets, qui serait mal traduit, en fait.
Ben oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et surtout, peut-être, je ne sais pas si par exemple, si c'est un humain qui traduit, parce que quand même, le contexte peut être... je veux dire, si quelqu'un comprend le contexte, il est difficile qu'il tombe dans le piège. Mais si, quand on donne au traducteur, je pense à l'intelligence artificielle, parfois, la traduction est erronée à cause du fait que le mot se ressemble dans les différentes langues romanes et que donc la traduction est une traduction qui n'a pas de sens. Mm-hmm. Donc, voilà, j'ai fait quelques essais, mais déjà au tout début, quand on commençait à parler d'intelligence artificielle, mais même dans les traducteurs, hein, je veux dire, en ligne, ça, parfois, il faut vraiment faire attention parce qu'ils n'ont pas cette subtilité, parce qu'ils n'ont pas l'idée du contexte.
Ouais, bien sûr. Et ça crée des malentendus, ils font de là à dire des fake news, il y a peut-être une marge aussi, on peut parler de malentendus plus que...
Mais pour les fake news, c'est souvent une lecture trop rapide qu'on ne mette pas en œuvre l'esprit critique parce qu'on croit tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit. Et donc, du coup, on peut nous dire n'importe quoi parce qu'on ne va pas faire un filtre. Et c'est ça, c'est plutôt faire réfléchir les étudiants pour voir où est la source, qui parle quand on lit un article, qui l'a écrit, dans quel but. et un peu réfléchir par rapport à ça, ne pas tomber dans le piège de la désinformation, pas seulement linguistique, mais aussi du contexte de la réalité.
C'est carrément de l'éducation médiale. Hein.
Tout à fait.
Oui, effectivement. Effectivement. Il faut vraiment faire attention à ne pas se laisser prendre par être pressé dans la lecture et essayer de bien comprendre ce qu'on lit. Ça, c'est très important, je trouve.
Oh, c'est bien, prendre le temps, en fait.
Oui, oui. Ce qu'on n'a pas, mais enfin...
N'est pas tout croire, les yeux fermés.
Oui, c'est surtout ça. Donc, c'est ça que vous avez travaillé avec ces jeunes, finalement, le 10 février. C'est ça que vous allez donc travailler avec eux. Et alors, si... J'ai presque envie de dire... Donc, les langues... étant issus de toutes ces langues romanes, on devrait avoir plus de facilité alors à apprendre les autres langues romanes ? Est-ce que ça c'est vrai qu'en tant que francophone, par exemple, j'aurais plus de facilité à apprendre l'italien ou l'espagnol que d'apprendre le danois ?
Au moins pour un niveau débutant, ça aide beaucoup. Mmh. Pour la compréhension à l'écrit, on comprend beaucoup, il y a beaucoup de mots transparents, comme on disait. Après, pour arriver à un niveau plus élevé, là, on commence à avoir les nuances et il faut pousser un peu plus loin. Mais pour commencer, je pense que ça aide beaucoup. Quand j'ai commencé à apprendre l'italien, c'était beaucoup plus facile. J'avais l'impression de comprendre beaucoup plus et de m'exprimer, même très mal, mais beaucoup plus facilement qu'en apprenant l'allemand ou le néerlandais ou le tchèque. Ça, c'est...
Le tchèque, c'est compliqué.
Oui. C'est très compliqué.
Mais il y a l'écriture qui change aussi. Enfin, il y a des signes qu'on ne voit pas.
Il y a plein de signes.
Il y a en espagnol aussi, mais...
Des déclinaisons, oui. Des mots qui ressemblent à rien. Parce que justement, on ne peut pas faire un lien avec quelque chose qu'on connaît. Ce n'est pas une langue germanique, ce n'est pas une langue romane, c'est une langue slave.
C'est encore autre chose.
Une origine différente, oui.
Et quand je présente le premier cours à mes étudiantes débutantes qui arrivent comme ça en B1, j'essaye de leur faire comprendre que l'apprentissage de l'italien, au moins comme disait la collègue au tout début, ne doit pas les effrayer parce que je leur montre, vu que c'est le début, je leur montre un passage de la Genèse, comme ça le début est en italien et en français. Et il voit tout de suite comment la langue fonctionne, les mots transparents, et que l'italien, au fond, fonctionne exactement comme leur langue maternelle et qu'ils ne doivent pas avoir peur de se tromper et parfois d'inventer quelques mots. Mm-hmm. Parce que, ce sont des langues qui sont proches l'une de l'autre, et c'est à exploiter ça, au moins au tout début. Mais après, on apprend et on comprend quand on ne peut plus inventer, on ne peut plus... Mais c'est... J'essaye de baisser un peu la tension, le stress d'apprendre une nouvelle langue, parce que quand ils arrivent, la dernière langue qu'ils ont appris, pratiquement, c'est l'anglais, et c'est en début de secondaire. Donc, quand même, il y a des années qui passent, et donc ils apprennent l'italien en adulte. Et donc, c'est différent. Donc, j'essaye de leur apprendre aussi les stratégies pour pouvoir s'en sortir plus facilement.
Et on ne part pas jamais de zéro, surtout dans les langues romanes, dans les langues voisines. Si on demande à n'importe qui s'il connaît un mot en espagnol, il y aura seulement, il ne dit pas à dire « Non, j'ai jamais appris l'espagnol. » Ah, alors, fiesta, vous ne comprenez pas? Cerveza, vous ne comprenez pas? Siesta, vous ne comprenez pas? Et donc, on peut faire toute une liste. Donc, on ne part pas de zéro.
On ne part jamais de zéro, en fait.
On ne part jamais de zéro.
Comme en italien, pizza, cappuccino.
Espresso.
Espresso, voilà. Donc, tout le monde connaît ces mots. On les voit écrits,
partout.
Tout autour de nous. Et c'est personne. Mais on ne s'en rend pas compte.
Alors, on ne se rend pas compte, c'est du roumain. Hein. Je ne suis toujours pas sûre que ça va être facile, même pour nous, de... Enfin, le roumain, enfin voilà. Ça me sidère, en fait. Et je crois que du coup, je vais aller voir ce qui est écrit en roumain, ou une série en roumain. Parce que je pense aussi, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, de regarder finalement la télévision dans une autre langue aide aussi.
Oui. Oui, ça aide. Non, je pensais plutôt au roumain que vous avez mentionné, que vous venez de mentionner. Je dois dire que ça me déstabilise beaucoup, le roumain. Mais il faut se rentrer dans la langue. Quand si la personne qui est en face de toi parle lentement, si le contexte est commun et clair, après, on comprend. On peut comprendre. Pas tout, naturellement, parce qu'il y a tout le côté slave, mais il y a aussi le côté latin surtout dans les sujets scientifiques. Notre collègue a fait quelque chose sur la grammaire et on s'est rendu compte que là, c'est tout à fait compréhensible parce que ce sont des mots justement techniques qui viennent du latin et que donc c'est facilement compréhensible. Mais voilà, il faut rentrer dans l'esprit de la langue.
Ben même le portugais, je veux dire, quand on entend quelqu'un qui parle portugais, ça peut être aussi hyper déstabilisant comparé à l'espagnol ou à l'italien qui semble peut-être plus familier.
Ils ont une phonétique très particulière, avec beaucoup plus de sons. La phonétique espagnole est très simple, avec très peu de sons. Et en portugais, par contre, ils comprennent tout ce qu'on dit, nous, mais pour comprendre un portugais, surtout de Portugal, parce qu'au Brésil, c'est un peu plus facile. Ils prononcent plus ouvertement les voyelles et tout. Mais c'est vrai que la phonétique peut rendre plus difficile la compréhension à l'oral. Mais par écrit, on comprend tout.
Ouais.
C'est beaucoup plus facile.
Oui, effectivement, c'est beaucoup plus facile à l'écrit qu'à l'oral. Parce que l'italien aussi, à l'oral, est très compréhensible, très par rapport au portugais qui, par contre, est beaucoup plus compliqué, effectivement.
Alors du coup, on continue le latin, il faut continuer le latin. Ça aide, ça nous fait une base commune.
Bien sûr, c'est très important le latin. C'est un apprentissage.
Oui, naturellement, je vois la différence quand j'ai des étudiants qui viennent étudier l'italien et qui ont fait du latin, surtout pour l'italien, parce que l'italien est la langue qui est restée la plus proche du latin, et donc il y a beaucoup de mots qui sont les mêmes, et donc c'est là, les étudiants de classique sont bien sont à même bien. De le témoigner, que c'est plus facile d'apprendre l'italien.
Mais toutes les langues romanes, ça aide pour toutes les langues romanes, ça aide pour l'origine des mots, pour comprendre le fonctionnement des langues. Ça aide pour justement ce qu'on disait au début, de tisser des liens entre les langues, ça aide beaucoup. Et puis pour les raisonnements, pour la culture, pour la mythologie, pour comprendre l'art. Ça, c'est vraiment important pour notre culture commune. Donc, moi, je suis pour les latins.
Oui, naturellement. Ça donne de la discipline aussi dans l'apprentissage. Donc, c'est très important. C'est bien.
Voilà, Sabine Agola et Béatrice Calvo-Martin, merci beaucoup en tout cas d'être venues nous parler des langues romanes et de partager finalement votre passion, parce qu'on vous sent passionnée là derrière, et je crois que je vais aller voir certains trucs, entre autres le roumain m'intrigue énormément actuellement. Merci en tout cas d'avoir éveillé ça chez moi, en tout cas j'espère chez les auditeuristes aussi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup
à vous pour l'invitation.
À bientôt.
Au revoir.